TVFM en direct de la mission locale du Comtat Venaissin pour Décode l'actu, un débat sur les réseaux sociaux, un danger pour la démocratie et sur la liberté d'expression et ses limites.
Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'RTVFM 15h. Merci de nous retrouver en ce milieu d'après-midi en direct de la mission locale du Comtat Venaissin. Dans le cadre de la semaine des missions locales, nous sommes présents ici donc en centre-ville de Carpentras. Bien évidemment, RTVFM est la mission locale donc qui s'associe pour vous proposer ce débat sur les réseaux sociaux, un danger pour la démocratie, la liberté d'expression et ses limites. Pour cette émission, je serai accompagné de Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Florian.
Et nous avons aussi quatre jeunes de la garantie jeune, donc ici à la mission locale du Comtat Venaissin à nos côtés. Nous avons tout d'abord Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nous avons aussi Océane. Bonjour Océane.
Bonjour.
Et nous avons aussi Ambre. Bonjour Ambre.
Bonjour.
Et puis Nathan, bien évidemment.
Bonjour.
Voilà, donc tous les quatre, vous avez 21, 23, 22 et 21 ans. Merci d'être à nos côtés pour cette émission un petit peu. Alors pour planter le décor, on va quand même préciser qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, juste une petite définition un petit peu. C'est le droit en fait d'exprimer librement ses opinions. Ça fait partie des libertés fondamentales, piliers de notre démocratie. Ça garantit et son respect favorise bien évidemment l'émergence d'une société ouverte, tolérante et respectueuse de l'état de droit. On en parlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et puis la démocratie, ben qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un système politique, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté émane du peuple. Voilà, donc ça c'est la démocratie politique qui est née dans la Grèce antique, il faut le savoir. Pourtant, ce n'est pas avant le 18e siècle que fut formulée la théorie de la séparation des pouvoirs et mis en place le suffrage universel aux États-Unis en 1776. Donc ça remonte quand même à une certaine époque qui en sont deux des fondements. Le respect des libertés publiques est au cœur même du fonctionnement de la démocratie dite aujourd'hui libérale. On abordera aussi la censure des réseaux sociaux, ça ce sera sur la partie réseaux sociaux, un danger pour la démocratie, les fake news notamment, et puis aussi comment en France la liberté d'expression est un droit fondamental garanti mais aussi encadré par la loi. Alors pour commencer, peut-être sur les réseaux sociaux, est-ce que pour vous, je ne sais pas, Nicolas, Océane, Ambre ou Nathan, est-ce que pour vous c'est un danger pour la démocratie? Alors on va expliquer un petit peu l'émission, il y aura des pour, il y aura des contre, c'est un débat. Je vais donc vous laisser. Peut-être, Nicolas, est-ce que pour toi, tu penses que les réseaux sociaux, c'est un danger ?
Je pense que c'est un danger pour la démocratie à long terme, car je trouve que les réseaux sociaux créent un certain nombrilisme des personnes. Et du coup, ça fait qu'on se concentre plus sur l'individu que sur la communauté ou sur, on va dire, ce qu'est la France et ce qu'est la démocratie.
Alors, est-ce que d'autres personnes sont d'accord avec ces propos ?
Alors moi je suis contre également, contre les réseaux sociaux, dans le sens, les réseaux sociaux sont un danger pour la démocratie actuelle, pour d'autres pays également, parce que c'est dirigé littéralement par les entreprises privées, comme Facebook, Twitter, tout ça. Donc il y a également des censures, on en discutera après plus tard. Voilà, je laisse la parole.
Alors justement, on a des exemples de censure des réseaux sociaux qu'il y a eu ces dernières années, ces derniers mois notamment. Quand on parle réseaux sociaux, on parle tout ce qui est Facebook ou c'était Instagram, TikTok et d'autres. Hein. Est-ce qu'on a des exemples ?
Ben, on peut penser notamment, Nicolas, à l'affaire Trump, par exemple, et le Capitole, que son compte Twitter a été censuré et il a été noté comme quoi c'est un compte non fiable dans lequel on ne peut pas suivre vraiment ce qu'il dit à la lettre et il a perdu aussi sa certification Twitter sur ça.
Alors justement, est-ce que voilà, fermer un compte peut être assimilé à un acte antidémocratique ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Nathan ?
Pour moi, c'est pas antidémocratique parce qu'en fait, il faut savoir que les réseaux sociaux ont des règlements stricts et c'est la liberté d'expression, elle est également limitée par les lois des pays. Donc il faut savoir qu'en fait, c'est pas un acte antidémocratique, c'est juste que en fait, il a violé les règlements et les lois imposées par les pays et par les réseaux sociaux eux-mêmes.
Alors, il faut savoir fermer un compte, tu souhaiterais répondre.
Justement, je n'étais pas très d'accord sur ça parce que, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est quand on fait une fermeture de compte sur un réseau social, c'est déjà quelle loi est-ce qu'on prend en compte de quel pays ? Parce que, très bien, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple simple, 9gag est un réseau social chinois. Est-ce que pour la censure, on doit prendre les normes chinoises ou on doit prendre les normes européennes ou américaines ?
Bah, chaque pays a ses lois, donc c'est les lois des États-Unis.
Mais le principe d'un réseau social est de pouvoir justement dialoguer tous ensemble. Et il n'y a pas forcément de loi qui est censée interférer dedans, si ?
Bah, si, les lois des pays qu'on impose.
Oui, mais Nathan, on en revient au fait que les entreprises qui dirigent ces réseaux sociaux, c'est au sein de la Silicon Valley, ce sont eux les maîtres du jeu, parce que c'est des entreprises privées, et ils ne prennent pas en compte les lois des pays différents, voilà, c'est vraiment à leur guise.
Oui, en effet, mais il y a aussi un règlement au niveau des réseaux sociaux. Ça a été fait, c'est strict, et ça s'applique à n'importe qui dans n'importe quel pays.
Effectivement, ce sont des règlements qui sont appliqués par l'entreprise qui gère le réseau social, mais surtout, il faut prendre en compte que ce sont des règlements qui sont très souvent adaptés à chaque pays afin de convenir aux lois du pays. C'est pour ça que quand un compte est fermé, le compte est fermé pour de bonnes raisons. Il ne va pas être fermé simplement parce que ça suit une envie.
Ben, je pense que je ne suis pas vraiment d'accord. Un compte peut être fermé pour X ou Y raison, comme réouvert en fait. Je vais prendre un exemple simple d'un autre réseau social qui est Twitch. On peut le considérer comme tel. Il y a des streamers et des streameuses qui font du contenu très nudifié et avec beaucoup de parties du corps et tout ça. Je donne un exemple Amourante. Cette femme se fait fermer son compte définitivement toutes les semaines, et toutes les semaines ça réouvre. Pourquoi? Parce que ça apporte du bénéfice aux grandes entreprises et que ça les arrange au final. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que techniquement Twitch c'est censé être moins de 18 tant que ça rapporte?
Oui, mais justement ça rapporte, mais ça a aussi le fait que en fermant continuellement le compte, même s'il est rouvert par la suite, ça prouve qu'il y a quand même une application du règlement, et c'est aussi pour persuader la personne d'arrêter le contenu.
Mais c'est eux qui réouvrent leur compte. Genre, ils le ferment, ils leur disent que c'est un ban définitif, puis elle retourne sur son compte 8 jours après, il est débanni.
Alors, je veux juste repréciser un petit peu que fermer aujourd'hui un compte, si on regarde le droit de la presse, dans nos démocraties, on considère que seul un juge peut se permettre d'intervenir et d'interférer éventuellement parce qu'il y a en face un principe de responsabilité. Donc, normalement, les réseaux sociaux ne peuvent pas eux-mêmes fermer logiquement de compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Pour moi, les réseaux sociaux, ils sont juste sur leur règlement. Pour moi, ils ne sont pas tenus par des pays ou quoi. Pour moi, c'est leur règlement, c'est leur loi à eux. Ils ont une politique de confidentialité, ils ont une politique privée, etc. Pour moi, les réseaux sociaux ont le droit de fermer des comptes.
Nicolas.
Je pense aussi qu'ils ont le droit parce que rien qu'en France, si on regarde la loi du 29 juillet 1980, vous parliez justement de la liberté de la presse et tout ça. Ben justement, l'article 29, ça sanctionne la diffamation et l'injure. Techniquement, selon moi, ça veut dire que des réseaux, des personnes qui sont sur des réseaux sociaux, qui seraient prêts à mettre en danger, du coup, je dirais la démocratie ou même le fait d'être xénophobe, homophobe, etc., mériteraient de se fermer leur compte en vertu de l'article 29.
Autre thématique aussi, on va aborder peut-être la partie fake news aussi. On en a entendu parler, ce sont des sujets voilà, qui, notamment, vous avez peut-être déjà été confrontés sur des réseaux sociaux, peut-être même à la télévision, ça peut arriver aussi. Est-ce qu'on a peut-être des exemples de fake news? Mais alors, on a une partie aussi humoristique, il faut bien faire la distinction aussi sur ces fake news, mais on pourrait presque y croire dans certains cas. Donc Nicolas, je crois que toi, tu as fait quelques recherches à ce niveau-là.
Oui, je suis parti chercher sur Internet pour l'article. Justement, je suis parti voir un article de la revue systématique de la littérature sur la propagation de la désinformation liée à la santé sur les médias, sociaux, et c'était sur Science Direct, vous pouvez aller chercher. Il est dit qu'entre 2012 et 2018, il y a 50 articles qui désinforment. Tous ces articles concernaient le secteur médical. Ce qui nous fait actuellement très peur selon le contexte actuel qui est le Covid et tout ça. Les articles qui désinformaient sont en l'occurrence par exemple la vaccination, Ebola, le virus Zika ou encore la nutrition ou le cancer.
Alors le Covid, effectivement, on a vu passer des fausses informations sur le Covid, sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des exemples peut-être en tête qui vous viennent comme ça sur des données que vous avez passées du Covid mais que ce n'est pas forcément les vraies données?
Dernièrement, j'ai vu des informations passer comme quoi il y aurait des personnes surnommées par les articles que j'ai trouvés super humains, comme quoi ils auraient un contre-virus naturel contre le Covid, comme s'ils avaient leur métabolisme qui était immunisé totalement contre le Covid, naturellement, qui ne se faisait pas avoir. Ils n'avaient pas les symptômes, ils n'avaient rien du tout. Pourtant, ce sont des personnes qui attrapent la grippe, qui a des symptômes en commun avec le Covid, n'est-ce pas?
Alors par qui sont véhiculées ces fake news, est-ce qu'on le sait?
Je vais être honnête, je pense sincèrement que déjà l'un des grands acteurs qui redirige des fake news sont les influenceurs sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou des choses comme ça. On peut penser notamment à je ne me rappelle plus des termes, c'est pas du tout la chose que je regarde au quotidien, mais une fille des Marseillais a dit que le Covid c'était complètement faux. Elle est partie à Hawaï, a chopé le Covid. Et elle pleurait sur ses réseaux sociaux en disant que la France n'était pas démocratique, la France ne permettait pas de revenir, c'était pas du tout juste. Alors qu'il y a moins de 5 jours, elle postait une série de vidéos comme quoi « Je vais aller à Hawaï, je porte pas de masque, je m'en fiche, le Covid ça n'existe pas, c'est qu'une invention. » Et du coup, rien que ça.
Oui, rien que cette partie-là, d'accord. Autre sujet aussi, donc on parle bien évidemment de liberté d'expression aussi, de ses limites. Est-ce que pour vous, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental?
Je pense qu'il faudrait faudrait limiter la liberté d'expression à certains individus.
Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, Océane, Ambre, Nathan? Est-ce que pour vous, la liberté d'expression, ce n'est pas un droit fondamental, comme vient de le dire Nicolas?
Pour moi, je pense que c'est un droit fondamental qui doit bien sûr être dans certaines limites, les limites du respect d'autrui. On peut avoir une façon de penser, une façon de voir les choses différentes de l'autre, en pouvant s'exprimer du moins publiquement, sans agresser quelqu'un, sans le blesser, sans voilà. Après, c'est sûr qu'il faut quand même diriger ça. C'est pour ça qu'il y a la loi, bien sûr. Mais je pense que la liberté d'expression est importante parce que si on cache tout, ça n'empêche pas de penser, ça n'empêche pas de vivre et tout ça. Donc, voilà.
Océane, est-ce que tu es d'accord?
Je suis assez d'accord sur le principe parce que la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental à chaque être humain. Tout simplement dans le fait que nous parlons, nous nous exprimons, nous avons des pensées que nous avons besoin de partager avec tout le monde. Après, effectivement, il faut. Certaines choses qu'on a envie de dire, il faut éviter de les dire tout simplement parce que. Il y a des personnes en face de nous qui ont des sentiments comme nous. Il faut avoir une certaine moralité pour éviter de blesser les gens ou pour créer des disputes qui au final ne servent à rien, que ce soit dans de petits conflits ou de très très gros conflits.
Donc si je comprends bien, tu privilégies les sentiments qu'à la logique.
Je privilégie les deux. Parce qu'il faut être logique et en même temps il faut prendre les choses en compte.
Nombreux sont des États, par exemple, juste un exemple simple. Durant la guerre froide, le bloc soviétique était l'un des blocs les plus, on va dire, j'ai pesé mes mots hein, quand même, mais les plus heureux, contrairement au bloc européen. Pourquoi?
Pourquoi exactement? Parce qu'ils avaient une façon de faire qui faisait qu'ils n'avaient pas besoin de penser, ils n'avaient pas besoin de. Ils avaient une fonction, ils savaient ce qu'ils devaient faire. C'est extrêmement bien pour eux, mais il y a des gens qui ne vivent pas comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'être libres et de dire ce qu'ils pensent. Alors oui, ils doivent le dire en fonction de ce qui est normal, ce qui devrait être normal pour tout le monde, pour ne pas créer de disputes ou quoi que ce soit. Mais il y a des personnes qui ont besoin de vivre comme le bloc soviétique, et il y a d'autres personnes qui ont besoin de vivre libres. Les tribus en Afrique, les nomades, les gens qui voyagent tout le temps, d'un bout à l'autre du monde, et qui pourtant, vivent tellement simplement en disant ce qu'ils ont à dire que, au final, ils ne se créent jamais de disputes, ils ne blessent pas les gens autour d'eux.
Nathan, je pense que tu souhaites réagir à tous ces propos que tu entends depuis tout à l'heure.
Alors, il faut savoir que la liberté d'expression de base en France, on s'est battu pour ça. Il y a eu la Révolution, et la Déclaration universelle des droits de l'homme a établi cette liberté d'expression, ainsi que plein d'autres libertés qu'on a encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, certes, c'est un droit fondamental, mais elle est réglementée, il faut qu'elle soit réglementée, que ce soit dans la vie en général, ou même sur les réseaux sociaux, ou débats politiques, télé, journaux, etc.
Alors, ce que je vous propose, on va revenir sur tous ces sujets, hein, liberté d'expression, réseaux sociaux, fake news, on va en parler dans quelques instants, on va faire une petite pause, ça va nous permettre de débriefer un petit peu sur les données, de revenir en forme. On fait une pause de 3 minutes, je vous rappelle que vous, auditeurs, si vous nous écoutez, cette émission est réalisée dans le cadre de la semaine des missions locales, et donc RTVFM et la mission locale du Comté Avenessin s'associent pour vous proposer un débat donc sur notamment les réseaux sociaux, un danger pour la démocratie, ou la liberté d'expression et ses limites. On fait une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite.
tight. I won't bite unless you like. If you're small, gotta hate. And if you're hungry, girl, I got for leggings. Kissing, cuddling, brows bitter than the basket. Girl, let's jump in, it's bubbling.
I'm playing a game, so every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay it, it's on. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl.
FM en direct de la mission locale du Comte à Venessin pour Décode l'actu, un débat sur les réseaux sociaux, un danger pour la démocratie et sur la liberté d'expression et ses limites.
Et de retour en direct sur notre plateau ici de la mission locale avec les jeunes de la Garantie Jeune, Nicolas, Océane, Ambre et Nathan. C'est un débat, bien évidemment. On parle réseaux sociaux, un danger pour la démocratie ou encore la liberté d'expression et ses limites avec vous quatre. Alors, on souhaitait revenir un petit peu sur la partie fake news. On l'a peut-être pas assez abordé sur ce parti, notamment tout ce qui est humour. Il y a des fake news, mais qui sont basées sur l'humour. On pourrait presque y croire. Et peut-être que vous aviez quelque chose à rajouter. Peut-être Nicolas sur cette partie-là.
En effet, j'ai eu un article sur le CNN comme quoi Facebook a reconnu le 1er janvier 2018 qu'un usage trop important des réseaux sociaux pouvait engendrer un danger pour la démocratie, tout en assurant qu'il allait faire son maximum pour limiter les risques. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est ce qu'il a essayé de faire, c'était de faire que votre fil d'actualité n'est pratiquement que ce qui vous intéresse et pas d'autres choses qui pourraient du coup vous troublez. De plus, il a dit, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, que la propagation des fausses informations et que la propagation des fausses informations a échappé à son contrôle et qu'il n'a pas assez lutté contre les contenus problématiques sur son réseau. Et il a promis qu'il allait continuer à traiter ça. Et nous pouvons voir aujourd'hui que ce n'est pas le cas.
Alors, est-ce que vous êtes pour, finalement, vous aussi, qu'il y ait des fake news, mais en mode humoristique, style logographie? Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose ou pas du tout pour vous? Peut-être, pourquoi pas, Ambre ou Océane? Ambre.
Pour moi, ça apporte beaucoup de désinformation, malgré la blague, hein, qui est... Bien sûr, ça peut être très rigolo, par logographie, par exemple, c'est un grand exemple. Mais effectivement... Lorsqu'on ne cherche pas plus loin sur une source, qu'on ne vérifie pas, on peut vite tomber dans un piège et partir dans une fake news et la diffuser encore, partir sur un autre pays, etc. De plus, les médias vont très vite, c'est sans vérifier les sources, encore une fois, puis on se retrouve avec
Une surabondance, surabondance d'informations qui nous mène à...
Et en plus, fausse, donc voilà.
Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi, Nathan ?
Alors, personnellement, moi, les fake news humoristiques, en fait, pour moi, on peut en rire, mais du moment de s'informer avant sur la news en question, en fait, on va partir d'une news et on va genre la déformer pour faire du second degré, etc. Enfin, moi, je trouve ça assez drôle, donc ça me dérangerait pas, mais après, peut-être beaucoup, oui, mais de temps à autre, voir un petit dessin ou un petit truc qui fait du second degré, moi, ça me dérangerait pas, je trouverais ça assez drôle, plutôt.
Moi, j'ai un souci avec ton point de vue, c'est que les fake news, en fait, même s'ils sont humoristiques, par exemple, il y a des comptes Twitter comme Le Saviez-Vous, qui se font passer pour des comptes Twitter qui sont plus ou moins honnêtes. Mais au final, ils ne le sont pas, et c'est clairement des fake. Il peut y avoir des choses bien dans le compte Twitter, quelques news qui sont ok. Mais en majorité, c'est des fake news, et c'est vraiment pas quelque chose de plaisant à voir.
Comment on peut reconnaître peut-être ces réseaux qui véhiculent des fake news quand on est sur Internet, quand on va sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous arrivez facilement à les reconnaître, le fait de véhiculer ces fausses informations, est-ce que vous arrivez à le discerner?
Bah, moi personnellement, ce que je fais, c'est que quand j'ai une news et qui me semble, enfin qui me pertinente et qui m'intéresse, de base, je vais juste essayer de croiser les informations pour pas essayer de garder des œillères et me dire ça c'est comme ça, je ne vais pas changer. En fait, je me pose toujours les questions, est-ce que ça vaut le coup d'être intéressant de faire des recherches? Si oui, je vais me renseigner. Sinon, je ne vais même pas garder l'information en tête car elle n'a pas été vérifiée et sourcée comme il faut.
Nathan, toi, quand tu cherches de l'information, tu la prends où? Tu la vérifies comment?
Bah, par exemple, quand je vois une news, je vais aller voir directement les sites sources et voir si ça vient de quelque chose de sérieux, d'officiel, etc. Ou si c'est juste un site comme ça qui veut rien dire et autant c'est une fake news, quoi. En fait, je vais plus aller chercher dans l'officiel que...
Et pour Ambre et Océane?
Pour ma part, bien souvent, je préfère croiser les informations exactement comme Nicolas. Mais je préfère me concentrer sur des choses plus qui me semblent plus réelles. Je vais plus à l'instinct. Il y a parfois des news, je vais directement me dire ça c'est faux, tout simplement parce que parfois c'est tellement gros, tellement énorme, que ça ne peut que être faux. Bien souvent les gens qui vont chercher des informations sur Internet, ils vont trouver une information et ils vont tellement y croire, parce que ça leur semble tellement réel, que quand ils vont pas chercher plus loin. C'est bien ça le problème quand on cherche une information, c'est qu'il faut toujours chercher plus loin pour avoir la vérité. Et les fake news, généralement, plus ils sont gros, plus ils sont croyables, on va dire, pour les gens. Alors que justement, plus ce sera petit, plus ce sera, on va dire, la vérité, ou en tout cas, ce sera plus profond à choisir.
Pour Ambre ?
Du coup, pour moi, ces fake news apportent quand même beaucoup de mal aussi, c'est vrai. Je disais tout à l'heure que je trouvais ça assez rigolo, mais c'est vrai qu'au final, pour les personnes assez naïves ou effectivement qui vont pas chercher plus loin dans l'information, on va se retrouver dans de la désinformation et dans ce débit de fake news encore et encore. Ah, chez le voisin, j'ai appris ça, j'ai lu ça, alors que c'est gros comme une maison, que ce n'est pas réel.
Nicolas?
Moi, je pense sincèrement que le problème actuellement, c'est justement, on a tellement d'informations à la seconde sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui se passe dans le monde, on a tellement trop d'informations qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Et c'est con, enfin, c'est pas ouf, pardon, c'est stupide, mais je ferai comme Descartes, je fais la tabula rasa, la table rase. J'essaie de voir par moi-même si c'est vrai et si c'est vérifiable. Et de base, je prends un principe, c'est que si l'information, on peut la croiser entre 3 et 5 fois, c'est quelque chose qu'on peut quand même penser que c'est vrai, mais je ne penserai jamais que c'est 100% vrai.
Alors, parmi tous les sujets que l'on a traités, les réseaux sociaux, la liberté d'expression, la censure des réseaux sociaux, les fake news, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous souhaiteriez intervenir, apporter peut-être des précisions, ou votre avis notamment? Peut-être Nicolas, peut-être, pourquoi pas Nathan, Océane, Ambre.
Bon, parce que il y a une chose que j'aimerais bien discuter avec vous, c'est la censure de Trump avec l'affaire du Capitole.
Tout à fait, on ne l'a pas abordé.
Moi, je pense que la censure de Trump était fondamentalement légitime, car c'est pas une personne dangereuse, mais c'est une personne qui est suivie par des personnes dangereuses. Lui n'a sûrement pas le recul pour avoir conscience de ce qu'il fait et ce qu'il dit. Mais du coup, je pense sincèrement que sa censure était légitime, car il y a quand même eu des morts. Il y a quand même eu la mort de Ashley Bibbitt lors du Capitole, tué par le mouvement des Proud Boys, un groupuscule d'extrême droite qui est pour Trump et qui aime bien s'appeler comme une milice de Trump.
Alors, est-ce que tu ne penses pas peut-être qu'en tant que président, quand il prend la parole, il sait très bien que forcément, il peut amener des personnes à le suivre, et justement sur ce qui s'est passé. Donc peut-être, est-ce qu'il n'a pas été trop fort sur les propos qu'il a tenus ?
Je pense que Trump avait parfaitement conscience de ce qu'il impliquait dans ce qu'il disait, que ce soit à la parole ou sur les réseaux sociaux. Donc, quand il s'est fait censurer, c'est parfaitement légitime, puisqu'il a fait une incitation à la violence. Il a fait des suggestions qui ont poussé énormément de gens à se réunir et à provoquer des mouvements de violence qui ont généré des morts. Pas seulement une personne, mais beaucoup de personnes ont été blessées ou atterri à l'hôpital. Il y a eu énormément de violence, de destruction matérielle. On a eu beaucoup d'informations sur ça, sur Internet, à la télé. Et effectivement, la censure de Trump est légitime dans ces conditions. Parce qu'il a incité beaucoup trop de violence, alors qu'il savait très bien dans quelle position il était.
Mais il ne faut pas oublier que Trump, à la base, n'était pas un président autrefois. C'était un showman de catch de la WWE. Donc, c'est-à-dire qu'il sait gérer son... En fait, il sait manipuler son public pour l'amener où est-ce qu'il le veut. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un showman et il sait comment parler pour faire ce qu'il veut. Le problème, c'est que souvent, ses paroles vont plus loin que ses ambitions, et du coup, ça ruine toutes ses idées et tout ce qu'il voulait faire à la base. Donc, techniquement, je pense que sa censure est légitime, mais je pense qu'elle a été mal effectuée, et au mauvais moment, en tout cas.
Il y a aussi le fait que, malgré son passé, pendant son mandat, tous les présidents, en tout cas, je pense quand même que c'est légitime, ont une sorte de formation pour arriver à parler au public, pour arriver à avoir une certaine, pas prestance, mais une façade face au public, pour montrer quand même qu'ils sont les représentants d'un pays et non plus juste une personne. Je pense que c'est normal. Donc oui, il aurait dû prendre conscience de la portée, pas uniquement par rapport à son travail avant, mais de la portée globale de ce qu'il a fait.
Mais tu sous-entends qu'il y a une certaine sacralisation du président. Mais cette certaine sacralisation, si on doit prendre l'exemple de la France, elle est détruite. Par exemple, nous pensons à Emmanuel Macron qui portait le portrait de McFly et Carlito lors de l'affaire Samuel Paty.
Ça vous a beaucoup fait débattre quand on a travaillé en amont.
Oui. En fait, c'est que je trouve ça consternant. Et je vais être honnête, ça me dégoûte de plus haut point le fait de désacraliser sa stature de président uniquement pour du marketing et pour avoir plus de chances d'être élu auprès des jeunes l'année prochaine.
Donc tu penses que c'est contre-productif finalement pour les jeunes, ça n'a pas marché.
Clairement, mais tout ce qu'il fait, c'est contre-productif.
Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, peut-être Ambre ?
Alors pour moi, les réseaux sociaux, par les politiques, les grandes personnes de ce pays, c'est... Bien sûr, c'est pour l'amusement, pour appâter, oui, le jeune public, effectivement. Effectivement, on avait bien discuté de Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, pardon, avec ce portrait de McFly et Carlito, 2 secondes avant l'hommage à Samuel Paty, et c'était très impressionnant pour nous qui sommes conscients de la chose. Le public qu'il a cherché à viser n'ont peut-être même pas fait tilt qu'on respectait la perte d'un enseignant pour faire une blague d'un défi avec des youtubeurs, quoi. C'est quand même assez grave pour moi.
Et on va clore cette émission, une demi-heure, ça passe très vite, sur ce sujet, notamment les réseaux sociaux en danger pour la démocratie, la liberté d'expression et ses limites. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission, d'avoir apporté vos avis, d'avoir fait le pour, d'avoir fait le contre aussi. On espère que pour les auditeurs aussi, ça leur a apporté peut-être quelques éclaircissements. On a essayé d'être en tout cas le plus succinct possible. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc merci Nicolas, merci Océane, merci Ambre, merci Nathan. Je rappelle que vous êtes des jeunes de la garantie jeune de la mission locale du Conta Venaissin, où nous sommes aujourd'hui d'ailleurs dans ces studios. Merci de nous avoir accueillis. Puis bon courage aussi pour la suite en tant que jeune de la garantie jeune. Merci beaucoup, puis à très bientôt peut-être pour un autre débat.
À très bientôt.
Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.